Voilà, donc, comme donc on l'a mentionné, c'est notre dernier dimanche avec vous avant ce temps sabbatique. Et je vais prendre un exemple de la parole de Dieu pour illustrer ce que nous allons faire dans ces prochains temps. Je vais vous apporter aussi quelques points au sujet de prière et réflexion que nous allons prendre aussi durant ce temps, afin que vous puissiez aussi prier avec nous pour que Dieu puisse aussi se révéler aussi dans ce temps. Comme on a dit aussi à la fin, on va prendre un temps de prière pour le pasteur Herman et le conseil officiel afin de les encourager dans cette nouvelle étape et ainsi nous-mêmes aussi, Nicole et moi-même, pour ce départ dans ce congé. Ce matin, j'ai intitulé cette prédication « Se retirer pour mieux écouter Dieu ». Se retirer pour mieux écouter Dieu. Mais avant d'aller dans le sujet, j'aimerais rappeler quelques points importants de ce qu'est un congé sabbatique, afin qu'on puisse bien comprendre pourquoi cette démarche. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ce terme dans nos milieux professionnels, un congé sabbatique. La plupart des gens pensent que bon, c'est 6 mois, une année ou plus, et que les gens vont simplement se retirer de leur travail pour faire autre chose, se reposer. Dans le terme méthodiste, dans le mouvement méthodiste, c'est un peu quand même différent. Donc c'est vrai que oui, c'est un temps de retrait de notre activité professionnelle, mais c'est un temps où on va chercher vraiment Dieu d'une façon particulière pour pouvoir avancer. Nicole, tu peux juste me donner la manette, s'il te plaît, j'ai oublié. Donc, prochain dia. Donc, dans le milieu méthodiste, le congé sabbatique a plusieurs aspects. Et j'aimerais simplement ce matin vous en donner quelques-uns. Voici un peu ce que Norm Groob dit par rapport à ce sujet du congé. Il dit, vous pouvez le lire sur l'écran, de plus en plus de dirigeants chrétiens manquent d'essence avant de voir la ligne d'arrivée. La façon dont nous accomplissons le ministère n'est souvent pas durable, spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Notre première étape vers de meilleures pratiques se produit lorsque nous arrivons à une hypothèse de base. Les soins personnels ne sont pas égoïstes. Chaque leader doit construire des voies de renouvellement pour maintenir la santé spirituel, émotionnel et physique pour le faire sur le long terme. Donc, ce que nous comprenons à travers cette phrase, c'est que cette personne dit que aussi dans nos églises, la fonction pastorale ou la fonction de leader est souvent des fois mal, je veux dire, mal fonctionnelle ou interprétée. Souvent des fois, dans certaines églises, même le pasteur, il fait tout, c'est tout lui qui fait. Et aussi, il prend toutes les responsabilités. Et c'est sûr qu'à la longue, ça peut user aussi physiquement, mais surtout aussi spirituellement, parce qu'on sait que l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est il veut toucher les leaders, il veut toucher la tête. S'il arrive à toucher la tête pour décourager le pasteur ou les leaders, ben ensuite, ça descend jusqu'en bas et l'Église peut aussi être affectée. Donc voilà pourquoi qu'il dit que chaque leader doit construire des voies de renouvellement pour maintenir cette santé physique, c'est vrai, mais aussi émotionnelle et spirituelle, si on veut vraiment durer à long terme. Alors, voici ce que je dis justement, Robert, prochain dia. L'un des fondateurs justement de l'Église méthodiste libre il y a au 19e siècle, voici ce qu'il suggère par rapport au congé sabbatique. Il devrait inclure les 8 R. Il appelait ça les 8 R. Alors, je vais vous donner rapidement un peu, expliquer chaque point. Le premier, c'est détente, relaxation, hein. Donc, oui, c'est vrai que c'est aussi un temps où on peut vraiment relaxer. On a moins d'activités, on a moins de responsabilités souvent. Donc, on peut relaxer pour faire aussi autre chose. Récréation, jouer, c'est le but aussi de pouvoir peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire, hein. Souvent, les pasteurs sont beaucoup impliqués, pas juste le temps du travail, mais aussi par d'autres obligations. Et on a besoin de simplement relaxer, jouer, de créer quelque chose de nouveau. Le repos, hein, c'est important aussi. Comme on a dit, si on veut être renouvelé, on a besoin aussi d'être renouvelé aussi du côté physique. Le renouveau, dans le sens d'un renouveau personnel, spirituel, le fait de pouvoir sortir de nos responsabilités, de notre train-train peut-être quotidien nous amène un renouveau, amène aussi un réveil. Le but, c'est aussi de pouvoir vivre un rafraîchissement, un renouvellement et de vivre un réveil spirituel, un réveil dans l'âme pour le Seigneur, pour le travail. Repenser, c'est l'occasion aussi de repenser, dire est-ce que le ministère que je fais convient, est-ce que je ne dois pas changer quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose que je dois changer dans ma vie. Recentrage, peut-être aussi de peut-être se recentrer par rapport à certaines choses dans nos vies, peut-être par rapport à nos ministères. Souvent, on fait beaucoup d'obligations. Moi-même, je suis aussi impliqué avec l'Église méthodiste du Canada en tant que coach. Je fais d'autres activités. Est-ce que Dieu nous demande peut-être de recentrer les choses pour le servir? Et en retour, dans le sens qu'après le congé sabbatique, c'est l'occasion de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a montré, de retourner et de pouvoir continuer de le servir. Donc, comme la phrase aussi le dit aussi dans sur l'écran, la meilleure image du congé sabbatique est peut-être celle d'un pèlerin à la recherche d'une nouvelle touche de Dieu. Alors, pourquoi moi, je veux prendre ce temps sabbatique? Alors, prochain dia, on va voir un peu justement pourquoi je voulais prendre ce temps sabbatique. Avant d'aller, j'aimerais vous partager quelques points que j'ai partagés au conseil officiel il y a quelques mois quand j'ai commencé un peu ces démarches. Donc, pour les plus anciens, peut-être vous savez, mais peut-être que non, je ne pense pas qu'il y a... En 1995, donc, on est arrivé ici au Québec pour la première fois comme missionnaire dans le ministère. Au début, on était prévu de rester juste 2 ans, mais Dieu a changé les plans pour que nous puissions revenir à long terme. Donc, on était là comme un missionnaire avec un soutien financier qui venait principalement de la Suisse, par des églises, par des amis. C'est vrai que durant toutes ces premières années, on a eu l'occasion de retourner toutes les X temps pour un congé missionnaire, pour aller justement faire des levées de fonds dans les églises, pour aller partager le travail qu'on faisait ici au Québec. Et ça a toujours été un temps où on pouvait se recharger personnellement, spirituellement, de vivre un rafraîchissement aussi pour reprendre le travail sur le terrain. Depuis l'année 2000, on a travaillé plus étroitement avec notre église. Donc, depuis 1995, on est arrivé à l'église de Saint-Henri. On était dans un autre bâtiment. En 2000, l'église ici a acheté ce bâtiment. Donc, l'année prochaine, ça va être le 25e anniversaire du bâtiment. Donc, on a travaillé pour développer le ministère auprès des enfants, des familles défavorisées, qui s'appelait le ministère de l'Arche. Ensuite, comme vous avez pu le voir un peu dans le plan ministère, il y a eu des situations difficiles dans le leadership. Le pasteur a dû partir. Et à ce moment-là, l'Église a vécu vraiment des temps difficiles. Et voilà pourquoi que le pasteur Nathan, qui arrivait de l'Ouest pour développer l'Église ici au Québec, est venu nous aider à l'Église de Saint-Henri. Et en 2004, nous a demandé si on voulait prendre un rôle pastoral un peu plus grand au sein de l'Église. Alors, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Et en 2008, il s'est retiré pour d'autres fonctions et on a été nommé comme pasteur principal. Donc, ça fait quand même 20 ans que j'ai ce rôle de pasteur et c'est un rôle que j'aime beaucoup, que je sais que le Seigneur veut m'utiliser encore plus, que j'ai encore besoin d'avancer, de progresser dans ce ministère pastoral. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a repris un peu le rôle pastoral au sein de l'Église, on a mis sur pied une nouvelle vision pour l'Église, on a entrepris de construire une meilleure structure de gestion d'organisation. Pour les plus anciens, le travail était ardu, hein. Au début, dans les premières années, on était 4, 5, 6 personnes. Il fallait tout rebâtir, construire une nouvelle confiance avec des finances qui étaient très difficiles. Mais le Seigneur a permis que petit à petit, on progresse, qu'on aille de l'avant jusqu'à aujourd'hui. Durant tout ce temps, j'ai eu à cœur d'aider chaque membre pour les écouter, les encourager dans leur marche chrétienne, les aider à mieux voir aussi comment vivre dans leur vie personnelle, dans leur vie avec le Seigneur. Mais maintenant, je ressens que j'arrive dans une nouvelle étape dans mon ministère pastoral et c'est pour ça que je veux prendre ce temps d'arrêt pour être à l'écoute de Dieu pour la suite. Là-bas, ce temps, on devait le faire en 2020, en juillet 2020. Mais comme vous savez, hein, vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2020, il y a eu le COVID et tout ça a été chamboulé. On voyait que ce n'était pas le temps de partir vu que tout était fermé, vu que l'Église vivait aussi des choses plus différentes. Donc, on a continué vraiment par la grâce de Dieu. Et on attendait un meilleur temps pour le faire. Et voilà qu'à l'automne 2023, on sentait vraiment que Dieu nous poussait à reprendre cette réflexion pour partir en 2024. Alors, prochain dia. Alors, comment je vois ce temps mis à part? J'aimerais nous appuyer sur un texte qu'on voit dans l'Ancien Testament. Alors, ouvrons notre Bible dans 1 Roi, chapitre 18. On va parler du prophète Élie. Et rassurez-vous, je ne serai pas comme lui, je n'ai pas son envergure comme il a fait sur plusieurs points, on va le voir. Donc, si vous connaissez un peu ou par l'histoire d'Élie, on sait que ce prophète a reçu l'onction vraiment de pouvoir démontrer devant le peuple d'Israël qui était toujours en pied avec Dieu, puis en pied avec les autres dieux Baal. Et il arrivait dans un temps où vraiment le peuple de Dieu était vraiment dans l'abandon des pratiques de Dieu, était vraiment adoré différentes idoles. Et là, il a convoqué tout le peuple ainsi que les 450 prophètes de Baal pour dire, on va faire un concours, on va faire un concours, on va savoir qui est le vrai Dieu. On va monter sur la montagne, on va bâtir une autel, on va mettre un sacrifice dessus, puis ensuite on va demander que le feu de Dieu puisse descendre. Alors, si c'est votre Dieu Baal, ben, qui descende avec le feu, si c'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il va aussi descendre. Alors, on peut le voir dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21, qui dit, Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Imaginez le peuple est convoqué pour dire, maintenant, là, il faut que vous choisissez là. Arrêtez d'être en pied avec Dieu, puis en pied dans le monde, dans les idoles. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se penser comme ça. On peut dire que oui, on vient à l'église, on vit une vie chrétienne assez bonne, mais des fois, on a comme un pied avec le monde. On veut suivre les principes du monde, mais en même temps, on veut suivre les principes de Dieu. Et c'est comme si Élie veut nous dire, maintenant, choisissez, choisissez, regardez réellement qui est Dieu. Il faut avoir du courage que Élie se présente devant 450 prophètes. Lui, il est tout seul. Il se présente devant 450 personnes, des prophètes, qui vont adorer pendant des heures pour faire descendre le feu. Et à un moment donné, si vous lisez un peu les versets, je trouve qu'il est un peu ironique. Élie dit, criez un peu plus fort, peut-être que votre Dieu est en vacances, en congé, il a d'autres choses à faire ou comme ça, là. Et il se moque d'eux, hein, il se moque d'eux comme ça. Des fois, on peut être comme ça, on dirait, mais Seigneur, tu réponds pas, est-ce que tu es en vacances ou est-ce que tu es loin de moi? Non, le Seigneur veut nous répondre au temps voulu, on a besoin d'avoir cette foi. Donc, on connaît la suite. Pendant des heures, ils ont essayé d'implorer Dieu, ils ont même fait des incisions dans leurs bras pour pouvoir implorer, pas de feu, rien du tout. Et on sait que Élie, ensuite, a construit un autel, il a versé plusieurs fois de l'eau dessus, et ensuite, il a simplement invoqué le nom de Dieu. Et à un moment donné, le feu puissant de Dieu est descendu du ciel. Il a consumé l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et même toute l'eau qu'il avait répandue est partie comme en évaporation. Donc, une victoire complète de qui était le véritable Dieu. Et là, le peuple était obligé de dire oui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur des cieux et de la terre est le vrai Dieu. Donc, à ce moment-là, Élie est vraiment au top, hein? Il est gonflé, on pourrait dire, dans le sens du courage. Prochain dia. Ensuite, on sait que le pays passait par une sécheresse depuis 3 ans et demi, parce que Dieu avait dit, je veux qu'il y ait une conséquence à cause du péché. Puis il avait dit à Élie, prie pour que la pluie ne tombe pas. Et là, maintenant, Dieu va lui dire, maintenant tu vas prier. Mais on sait que la prière d'Élie est arrivée avec un certain temps. C'est pas comme la première fois qu'il a prié sur la montagne puis que le feu est descendu. Il a dû prier plusieurs fois. Et à chaque fois, il disait à son serviteur, va sur la montagne, va regarder s'il y a un nuage. Puis chaque fois, écoute, le temps de monter sur la montagne, de redescendre vers Élie, puis dire, il n'y a rien du tout. Pendant 7 fois, il est monté. Je pense que, imaginez le serviteur, il dit, mais franchement, Élie, là, tu me fais monter à chaque fois. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait rien. Mais oui, vas-y, continue. OK, mais Élie, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et la 7e fois, il dit, hey, je vois un petit quelque chose en arrière, mais très, très peu. Puis là, il a dit, maintenant, c'est le temps. Et là, on a pu voir comment que la pluie est venue déverser des bénédictions de Dieu. Donc, on voit que Élie voit que le peuple voit que Élie vraiment prie, cherche la face de Dieu et Dieu répond. Mais on sait la suite de l'histoire, lorsque la reine Jézabel apprit qu'Élie avait fait tuer les 450 prophètes. Elle l'a dit qu'elle allait le tuer. Et là, on voit Élie qui, malgré tout ce qu'il a fait, qui a vécu tellement de grandes choses avec Dieu, se décourage et va fuir dans le désert. Je vous rassure, je ne pars pas en sabbatique parce que je suis fatigué ou découragé ou je veux demander la mort comme Élie. Rassurez-vous, ce n'est pas comme ça. Mais c'est pour un temps de rafraîchissement, un temps de renouvellement. Donc, on peut lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8, 5 à 8. Donc, on voit que là, Élie est complètement découragé, complètement découragé. Et là, il va se passer quelque chose. Il se coucha, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, Un ange toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche de pleine d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange d'Éternel revint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis fortifié par sa nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la maison de Dieu, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc Dieu avait un plan pour Élie. Dieu ne voulait pas le laisser dans ce temps morose. Dieu ne voulait pas le laisser à se morfondre des peines, qu'il allait être tué par la reine, etc. Donc il lui donne les forces pour qu'il puisse marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Donc si on regarde un peu le plan ou la map, comme on pourrait dire, il y a à peu près 400 kilomètres. Donc pendant 40 jours, Élie a marché depuis le désert de Beersheba jusqu'à la montagne de Dieu. Donc peut-être ça n'a pas pris 40 jours réellement, parce que 400 kilomètres, ça peut être fait peut-être en 10-15 jours. Mais le 40 jours est comme un symbole. On sait que le chiffre de 40 dans la Bible est important. On sait que le peuple a passé 40 ans dans le désert. On sait que Jésus a passé aussi 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Donc c'est comme un peu comme un symbole pour démontrer l'importance de ce temps de préparation. Alors, prochain dia. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi que Dieu ne se révèle pas là au bord de l'eau, au bord de la rivière, au lieu de le faire aller 400 km plus loin? Pourquoi Élie devait aller à Horeb, sur la montagne où Dieu donna la loi aussi à Moïse des centaines d'années auparavant? Je crois que Dieu voulait prendre un temps mis à part avec Élie, un temps de rafraîchissement, seul avec lui, un temps où personne n'allait le déranger. Surtout pas d'avoir d'inquiétude que la reine Jézabel le trouve. Parce que Dieu voulait qu'il vive une expérience nouvelle avec lui. Donc Élie arrive sur la montagne et là il se repose dans une grotte. Et Dieu là le réveille et lui demande une question qui est un peu troublante. On peut le voir dans 1 Roi, chapitre 19, verset 9. Que viens-tu faire ici, Élie? Rappelez-vous, ce n'est pas Élie qui est venu par son propre chef. C'est Dieu qui lui a dit, vas-y jusqu'à la montagne. Pourquoi que Dieu lui dit, que viens-tu faire ici, Élie? Pourquoi il pose une telle question? Je crois que Dieu voulait sonder les intentions et le cœur d'Élie. Et la réponse d'Élie, elle est incroyable, dans le sens qu'il se défend qu'il est le seul resté fidèle à Dieu, qu'il a fait plein de choses pour Dieu et que maintenant il veut s'ôter la vie. Donc Élie se plaint devant Dieu de tout ce qui lui arrive. Mais Dieu va lui demander de sortir de la grotte, de sortir un peu de son trou pour se tenir devant l'Éternel afin de révéler à lui. Lisons 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12, qui nous montre qu'est-ce que Dieu, comment Dieu s'est révélé à Élie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Donc Dieu ne se présente pas, non pas dans sa grande puissance, à travers un vent violent qui fendait les montagnes, fracassait les rochers, non pas dans un tremblement de terre, non pas dans le feu. Tous ces phénomènes démontrent la grande puissance de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais été impressionné d'être à ce moment-là, de voir ces tremblements de terre, ce feu, ce vent violent. Mais Dieu n'était pas dans ces éléments. Dieu se présente ensuite dans un bruissement doux et léger. Doux et léger. Doux et subtil. Murmure doux et léger. Une voix douce. Élie n'avait pas besoin à ce moment-là de voir la puissance de Dieu dans quelque chose de grand. Il l'avait vu quelques instants auparavant, mais des jours avant. Avec le feu qui est descendu sur le coast, avec aussi la pluie qui s'est déversée après 3 ans et demi de sécheresse. Il avait besoin, dans le temps que Élie vivait un temps difficile, de voir simplement un bruissement doux et léger. De voir la bonté, la bienveillance de Dieu d'une façon tout à fait douce, légère. Ça nous montre comment que Dieu est un Dieu qui est personnel avec chacun de nous. Dieu savait exactement que comment Élie se sentait à ce moment-là. Et il vient la même chose vers nous. Il vient des fois, c'est vrai que des fois, il vient peut-être avec peut-être sa grande puissance, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour nous montrer qu'il est Dieu. Mais souvent, il vient vers nous. Il vient vers nous par un bruissement doux et léger. Il vient doux et léger. Il vient comme pour nous rassurer, pour nous dire, mais je viens comme un ami devant toi. Et là, Élie sait, c'est à ce moment-là que c'est Dieu qui l'invite à sortir de la grotte et à se présenter devant lui. Et là, Dieu lui pose encore cette question, que fais-tu ici, Élie? Et Élie va répéter la même réponse qu'il a donnée la première fois que Dieu lui pose la question. Dieu voulait qu'il vienne sur cette montagne, où il s'était révélé des 7 auparavant, où il avait donné la loi à Moïse. On a pu voir comment que il s'est manifesté d'une façon incroyable. Rappelez-vous que Moïse était pendant 40 jours, justement, dans la nuée, dans la puissance, dans la présence de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu se présente tout simplement vers Élie, avec un bruissement doux et léger. Et Dieu voulait savoir, en posant cette question, quelle est la véritable raison de l'amertume, du désarroi, de la dépression même d'Élie? Prochain dia. Ce que ce texte veut nous dire, c'est que Dieu désire se révéler à nous de différentes manières. Comme on dit des fois, c'est façon puissante pour nous démontrer que oui, c'est lui qui est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a le contrôle sur tout. Mais des fois, il veut simplement se révéler d'une manière douce, un murmure doux et léger. Mais pour cela, pour qu'on puisse entendre du bruissement doux et léger, il faut qu'on soit disponible. Souvent, en tant que chrétien, on n'arrive pas à entendre ce bruit doux et léger parce que on n'est pas là. Combien de fois que des gens, et même des fois, même moi, des fois, j'entends pas la voix de Dieu parce que je suis pris dans tellement de choses. On est pris dans tellement de choses qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Mais Dieu nous parle. Mais des fois, il faut simplement l'écouter avec tout notre cœur, tout notre être. Il faut arrêter peut-être faire tout ce que nous faisons pour prendre ce temps avec Dieu. Il veut prendre ce temps tout en douceur avec nous. Alors, dans ce périple de 40 jours pour Élie, je me vois un peu comme dans ce temps sabbatique, de vivre quelque chose de différent, quelque chose qui va permettre, comme Élie, de vivre une expérience nouvelle. Dieu désire qu'on puisse aller dans l'Ouest canadien parce qu'il a un rendez-vous avec nous dans ce lieu. Pourquoi? Je n'ai pas encore toutes les réponses. Même si je fais un certain programme de ce que je désire faire durant ce temps que je vais être là-bas, j'ai l'impression, comme Élie, que Dieu veut me donner un rendez-vous pour passer un temps spécial avec lui où j'ai besoin de me concentrer pour entendre sa voix douce, entendre le Seigneur me parler comme un bruissement léger. Plusieurs personnes savent que en ce moment, nous vivons aussi beaucoup de défis actuels avec notre logement, nos propriétaires aussi. On sent beaucoup d'attaques. Et c'est vrai que dans ce temps-là, ça aurait été difficile de rester peut-être chez nous. On aurait été peut-être trop, on n'aurait pas entendu le bruissement doux et léger du Seigneur dans les circonstances que nous vivons. Alors je vais un peu comme à l'aventure, pour monter sur la montagne de Dieu, pour recevoir une révélation de Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de vos prières, afin que je puisse vivre ce temps sur la montagne avec Dieu, que le Seigneur me révèle et me pose la question, Philippe, que viens-tu faire ici? Philippe, que viens-tu faire ici? Alors oui, je viens avec quelques questions pour la suite, comme Élie. Dieu, qui puisse me dire, comme on le voit dans le verset 15 et 16, verset 15 et 16 qui dit, l'Éternel va lui dire, il va dire à Élie, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nichmi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Saphat, d'Abel-Meshaloh, comme prophète pour te remplacer. Donc, c'est comme Dieu va le déplacer pour prendre un temps sur la montagne pour lui dire, j'ai pas fini avec toi, j'ai pas fini. Il y a quelque chose encore que j'ai encore besoin de faire. Tu as besoin encore, il y a encore une mission que tu dois faire. Cette mission, Dieu veut lui donner un second souffle. Il avait besoin, malgré toute la grande puissance qu'il a vue de Dieu se déverser, malgré toutes les belles choses qu'Élie a fait, il avait besoin encore de ce temps spécial avec Dieu pour pouvoir être rafraîchi, renouvelé, pour pouvoir continuer sa mission avec le Seigneur. Donc, je ne reviendrai pas pour oindre un roi ou un successeur. Mais je crois que Dieu veut que nous puissions avoir une nouvelle mission, une nouvelle étape dans notre ministère. Alors, prochain dia, quels sont justement ces sujets que j'aimerais parler avec le Seigneur? Alors, il y en a quelques-uns, je n'ai pas toutes notées, mais vous pourrez aussi prier pour cela. Quelle est la suite de notre engagement avec l'Église Carrefour de Saint-Rémy? Comme vous avez su, ça fait plus de 20 ans qu'on est pasteur, qu'on était même avant aussi un leader dans l'Église. C'est quoi la suite de l'engagement? Je rassure, je ne vais pas partir demain du rôle pastoral, mais peut-être un rôle différent au sein de l'Église. Est-ce que nous pouvons avoir un autre fonctionnement de leadership ou de gestion de l'Église? On a un modèle, hein, un pasteur qui est salarié, qui fait une grande partie du travail, avec peut-être une équipe de leaders aussi. On a souvent ce modèle dans nos familles, dans nos églises. Mais Dieu peut-être a quelque chose d'autre, peut-être, pour le Québec, pour le Saint-Henri. Et c'est ce que je suis en train de voir. Il y a d'autres alternatives pour pouvoir continuer à servir le Seigneur, mais en fonctionnement, une gestion qui est un peu différente. Notre avenir de la ville de Contrecœur, comment s'impliquer, hein? Depuis 2 ans et demi que nous sommes à Contrecœur, et je dis souvent aux personnes, je ne crois pas que Dieu nous a amenés à Contrecœur juste pour dormir, juste pour aller là-bas avoir un appartement. Dieu a quelque chose, je crois aussi, que nous puissions faire dans cette région. C'est une ville qui est en plein développement, qui n'a pas d'église. Est-ce que Dieu nous demande de faire quelque chose, à implanter une église? Est-ce que Dieu nous demande à développer une cellule, un groupe de maison ou un travail dans le ministère? Ce sont des questions qu'on veut poser. Voilà pourquoi que on a besoin de prendre le temps de retrait pour dire, Seigneur, je veux me concentrer, je veux arrêter toutes les responsabilités pastorales que j'ai pour prendre le temps de vraiment m'arrêter. Et comme sur la montagne, de prendre ce temps pour dire, Seigneur, je suis devant toi, je veux t'écouter, je veux parler, je veux dialoguer avec toi, je veux comprendre aussi pour la suite. Donc oui, c'est vrai que Dieu permet dans notre vie des temps d'arrêt, des temps de retrait pour nous parler spécifiquement. Je suis conscient qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire un temps sabbatique de 4 mois comme nous. Mais le Seigneur peut nous le donner et le Seigneur nous donne pour nous en tant que dans le ministère pour qu'on puisse vraiment prendre ce temps pour réfléchir, pour avoir une suite dans le ministère. Donc Dieu nous met tous dans de différentes places pour le servir avec différents ministères ou tâches à accomplir. Il donne à chacun les outils, les ressources pour le faire. Donc, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, mais d'une manière différente. Et le Seigneur peut, à un moment donné, nous retirer ou peut-être prendre un temps avec nous. Peut-être ce n'est pas forcément plusieurs mois, ça peut être juste une semaine, quelques jours, pour dire, maintenant, retire-toi, prends un temps pour écouter. Vous savez, si vous le cherchez, un suivi, vous cherchez une direction claire dans votre vie, que ce soit du côté professionnel, du côté même familial, du côté peut-être du ministère. C'est difficile d'entendre la voix de Dieu dans le brouhaha que nous vivons actuellement. Nous sommes tellement pris par tellement de choses, par la famille, par le travail, par les obligations, que c'est difficile de prendre le temps pour le Seigneur. Voilà pourquoi que c'est bon de prendre des fois des temps de retrait, même si c'est 1 ou 2 jours ou 3 jours, dire Seigneur, je prends ma parole, je prends ta parole, je prends juste quelque chose à écrire. Je ne prends pas mon cellulaire pour essayer de me rattraper dans tout ce que je n'ai pas pu faire. Non, non. Je prends juste quelque chose pour toi, puis je me mets devant toi, puis je dis, Seigneur, maintenant, parle. Lorsqu'on prend le temps devant Dieu, Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas forcément comme nous, on aimerait. Comme Élie, Élie voulait peut-être qu'il enlève sa vie, qu'il se retire du ministère. Puis Dieu dit, non, 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 j'ai quelque chose encore pour toi. Alors c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu a quelque chose pour la suite, pour la suite. Et Dieu veut simplement qu'il va se révéler à nous. Alors c'est possible que peut-être, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, si vous ne savez pas vraiment où Dieu vous conduit, prenez ce temps de retraite, prenez ce temps de congé, prenez un temps où vous dites peut-être même pour une saison, puis une période, dire, mais je vais arrêter certaines choses pour prendre plus de temps avec le Seigneur. Et vous allez voir comment que Dieu agit. Vous pouvez prendre aussi un temps avec peut-être des frères et sœurs de l'Église, puis dire, priez pour moi, pour que que je puisse comprendre, saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est la même chose pour nos jeunes, pour nos ados, pour nos jeunes adultes qui prennent le temps avant de s'engager dans des voies pour que le Seigneur puisse leur montrer ce qu'il veut. Alors, on peut courber notre tête maintenant afin que, comme Élie, on soit attentif à la voix de Dieu. Dieu veut se révéler à chacun d'une manière différente. Peut-être vous connaissez comment que Dieu se révèle. Peut-être Dieu se révèle peut-être à travers des songes, des rêves. Dieu se révèle peut-être à travers des textes bibliques. Dieu se révèle peut-être à travers une autre personne. Mais souvent, Dieu veut se révéler par comme un bruissement doux et léger. Un temps, il dit, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je veux prendre un temps spécial avec toi. Je veux que tu te retires un peu du brouhaha de ce monde pour que tu puisses vraiment comprendre ce que je veux. Pour ceux qui ont encore l'occasion, l'été n'est pas terminé. On sait que l'été, c'est toujours un temps différent. On change de routine. Dire peut-être, Seigneur, oui, j'ai besoin de prendre un ou deux jours à l'extérieur. Le fait de sortir de chez vous vous permet d'être plus disponible. Lorsqu'on est chez nous, ben, on a toujours quelque chose à faire. Le Seigneur veut se révéler. Comme il veut se révéler à moi-même, je crois que dans ce temps de sabbatique, il veut aussi se révéler à vous, quel que soit ce que vous vivez. Alors continuons de prier, d'intercéder pour entendre ce bruit doux et léger du Seigneur. Il veut nous interpeller, il veut nous dire, j'ai encore une mission pour toi. Dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle rentrée qui s'en vient bientôt, j'ai une étape importante que je veux te faire faire. Que ce soit dans ton travail, que ce soit peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans le ministère, le Seigneur veut encore nous parler. Seigneur, on te remercie pour cet exemple d'Élie. On te remercie parce que, à travers cet exemple, tu nous montres comment que tu prends soin de nous. Tu as pris soin d'Élie, lui qui était dans l'amertume, qui était dans la dépression. Tu lui as donné la nourriture, tu l'as réconforté pour qu'il puisse prendre ce temps à des centaines de kilomètres de là pour prendre un temps spécial sur la montagne avec toi. Oui, Seigneur, des fois, tu veux nous interpeller, tu veux nous montrer que tu prends soin de nous de différentes manières parce que tu veux encore nous montrer le chemin à suivre. Tu veux encore que nous puissions avancer avec toi. Seigneur, permets que chacun de nous puissions encore aujourd'hui dire et te redire qu'on a besoin de toi. Seigneur, nous passons tous par des saisons de la vie différentes. Peut-être nous sommes dans un temps où on est vraiment béni, on est réconforté, on sent que Dieu agit en nous. Ben, tu veux continuer de nous encourager pour avancer. Mais peut-être nous sommes dans un temps où justement on se pose plein de questions, où l'avenir est difficile, où on vit tellement d'épreuves, de défis, de souffrances qu'on ne sait plus très bien où on est. Seigneur, révèle-toi encore à nous. Montre-nous comment tu veux prendre soin de nous encore. Tu es un Dieu, un grand Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant, mais tu es un Dieu tellement aussi proche de nous. Et Seigneur, c'est ça que j'aime avec toi. Tu as fait les cieux et la terre, tu as fait toute la création, tu nous as fait en tant qu'humains. Mais tu veux venir à côté de nous. Tu veux nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et je le remercie, Seigneur, cette occasion que nous pouvons jour après jour encore venir vers toi. Et que tu nous écoutes et que tu continues de nous parler, de nous réconforter. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus. Amen.